Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série sur l'évangile de Matthieu. La semaine dernière, nous avons vu que Matthieu commence son récit par la généalogie de Jésus, comme il était d'usage dans le judaïsme. Cet arbre généalogique est celui du père adoptif de Jésus, donc de Joseph. C'est ainsi que l'auteur démontre que Jésus était légalement membre de la famille du roi David, dont Joseph était le descendant. Cela est primordial puisque les prophètes avaient prédit que le Messie à venir serait le fils, donc le descendant David. Aujourd'hui, nous allons voir de plus près la deuxième partie du premier chapitre. Celui-ci traite de la naissance de Jésus, mais du point de vue de Joseph, ce qui me plaît particulièrement. Il me semble que souvent, nous sous-estimons l'importance de cet homme. Sans doute savons-nous tous qu'un ange a rendu visite à Marie et peut-être connaissons-nous même le « Je vous salue Marie » par cœur, comme moi, ayant passé ma scolarité dans une école catholique. Mais savons-nous que Joseph lui aussi a eu la visite d'un ange qui lui a parlé? Et avons-nous réfléchi à la réponse de notre jeune charpentier? Prenons notre Bible et lançons-nous. Je lis le verset 18, donc du premier chapitre. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le récit commence donc par les fiançailles de Joseph et Marie. Selon la loi juive, lors des fiançailles, le jeune homme donne à la jeune fille un objet de valeur, en général un anneau, et en retour, la jeune fille se consacre à lui avec l'effet qu'à partir de ce moment, elle devient interdite au reste du monde. L'engagement ne peut être dissous que par une répudiation qui n'est autre qu'un acte de divorce. Et le procédé est encore plus difficile que pour le divorce d'un mariage déjà consumé. Comment cela se fait-il? La tradition rabbinique considère que lorsqu'un couple marié divorce, les deux parties ont eu l'occasion de bien se connaître. Ainsi, ils sont apparemment arrivés à la conclusion que la poursuite de leur cohabitation est mauvaise ou impossible. Par contre, un homme et une femme qui se sont fiancés, ainsi que leurs familles respectives, ne se connaissent pas encore très bien, c'est-à-dire uniquement superficiellement. Par conséquent, il n'existe aucune raison valable de rompre les fiançailles, à quelques exceptions près. La honte pour le couple et leur famille n'en est que plus grande. Marie et Joseph étaient donc fiancés à ce moment-là. C'était avant leur union, nous dit la Bible, donc avant qu'ils aient couché ensemble et qu'ils n'habitent ensemble. Marie tomba enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le verset prochain, le verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre discrètement avec elle. Nous voyons, et ça peut être un peu étonnant, que Joseph ici est appelé l'époux de Marie. Dans la traduction Chouraki, nous lisons son homme. C'est ainsi parce qu'avant même de mener la vie commune, les jeunes gens qui se sont promis en mariage sont considérés comme des époux. Je pense que nous comprenons trop bien que Joseph ait voulu se séparer de Marie. Matthieu ne nous dit pas si Marie lui avait dit qu'elle attendait un bébé par l'action de l'Esprit de Dieu, mais il me semble que ça aurait pu être peine perdue. Pour toute personne raisonnable, cette grossesse ne pouvait dire que deux choses. Ou Joseph et Marie avaient tout simplement couché ensemble avant d'être mariés, ou alors Marie avait eu des relations sexuelles avec un autre homme. Quelle honte! Même si sans doute Joseph lui-même devait penser que sa fiancée l'avait trompé, il voulait la protéger et surtout ne pas l'exposer aux diffamations de son entourage. C'est quand même extraordinaire. Un autre aurait hurlé de colère et simplement essayé de se débarrasser d'elle le plus vite possible. Mais Joseph réfléchit comment il pourrait rompre avec elle sans que cela ne s'ébruite. Je lis les trois versets suivants, 20 à 23. Comme il y pensait, donc comme il pensait comment il pourrait rompre discrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera ainsi que afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors que Joseph, donc j'ai fini la lecture, alors que Joseph essaye de trouver une solution à leur problème, voici qu'un ange lui apparaît et le rassure. Non, Marie ne l'a pas trompé. Le bébé qu'elle attend vient bel et bien de l'Esprit de Dieu. L'ange poursuit en demandant à Joseph de prendre Marie chez lui, peu importe ce que les gens pensent. L'ange lui dit que Marie attend un petit garçon et que Joseph devra lui donner le nom de Jésus, Yeshua en hébreu. Yeshua est la forme abrégée de Yehoshua qui veut dire « Dieu sauve ». Je lis les versets 24 et 25. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il ne la connut pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle jusqu'à l'accouchement de Marie. Il est écrit tout simplement que Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Quelle humilité! Il entendit, il comprit et il fit. N'oublions pas à quel point cela devait être difficile pour Joseph. À coup sûr, l'entourage du jeune couple jasait. Et on ne peut même pas leur en vouloir. Comment croire que cet enfant serait le fruit du Saint-Esprit? Malgré tout, Joseph accueillit cet enfant comme le sien. Cet amour inconditionnel, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, n'est-ce pas le même amour que le Christ nous porte? Il fit ce que l'ange lui avait ordonné. Ça me fait penser au slogan de cette grande marque sportive que je ne nommerai pas, mais que nous connaissons tous, « Just do it ». Cette semaine, je nous invite à méditer ce slogan sous un autre angle. « Just do it », fais-le, tu n'as qu'à le faire. Sans attendre, mettons en pratique ce que nous croyons. Ne nous laissons pas freiner parce que nous comprenons pas, mais ce que nous comprenons, faisons-le. Je vous souhaite une semaine bénie et à dans une semaine, je l'espère.